Alors, je vous propose qu'on passe au paradoxe de l'action collective maintenant. Alors, je l'ai dit, action collective, le terme, il en est venu à désigner essentiellement les mouvements sociaux à cause du titre du bouquin d'Olson, donc Logique de l'action collective qui est publié la première fois aux États-Unis en 65. Alors, qui est intéressant parce que c'est vraiment le bouquin, même s'il y a plein de critiques à lui adresser, hein, mais qui fait rentrer l'étude des mouvements sociaux dans une certaine, à la fois modernité et normalité. Donc c'est un économiste utilitariste, et justement, il présuppose un acteur rationnel et stratège. Or, les modèles préexistants avait plus ou moins tendance à postuler une irrationalité des comportements de protestation. Hein? Ça vient avec le non conventionnel aussi, hein? L'idée que ces gens qui protestent quand même un petit peu sont un peu déraisonnables. Voilà. Alors, je dirais antérieurement, il y a Gustave Le Bon qui est espèce d'antimatière pour l'étude des mouvements sociaux. C'est-à-dire, bon, la psychologie des foules, alors c'est raciste, sexiste, enfin, le truc est. Le bouquin est quand même gratiné. Donc, on régresse sur l'échelle de la civilisation lorsqu'on est en foule, on devient influençable. Hein, voilà, la phrase de Le Bon que je cite toujours à mes étudiants, ça. Les étudiants tirent la gueule, la foule est féminine, donc influençable. Bon, on est dans tout cet univers mental fin 19e siècle. Donc, voilà, l'idée d'une irrationalité, bon, qui évidemment est disqualifiée totalement, mais des modèles ultérieurs, je pense à quelqu'un comme Kornhauser, Kornhauser, donc un sociologue américain, qui postule un déficit d'intégration sociale. Hein, c'est les théories du comportement collectif. Donc, c'est les gens qui sont. C'est un peu l'idée de l'atomisation sociale, de l'anonymat de la grande ville. Et on va rejoindre des mouvements sociaux. En plus, ils privilégient le parti nazi et le communisme stalinien. Donc, évidemment. Bon, voilà. C'est que, quand même, les gens qui rallient ces partis politiques, c'est les gens qui sont quand même pas hyper bien dans leur basket. Et puis, le dernier modèle. Alors, qui reste influent, qui est l'idée de la frustration relative. Hein, avec un auteur comme Tedger, GU2R, avec un bouquin qui s'appelle Why Men Rebel, alors, qui est là une élaboration sociologique qui est que, en fait, c'est pas qui part du constat que ce n'est pas les plus malheureux dans une société qui se révoltent le plus, mais que c'est des gens dont les espoirs ont été déçus. Qui sont frustrés, qui espéraient que. Alors, il produit ça dans les années 70, donc période où se ralentit la croissance économique de l'après-Seconde Guerre mondiale, et où bon, on pouvait espérer une croissance qui progresserait éternellement, et puis finalement ça se ralentit, et puis les. Voilà. Alors c'est un modèle pour l'illustrer qui a été repris à la fois par Boudon et Bourdieu pour expliquer mai 68. Alors pas ensemble, hein, mais. Avec l'idée que les promesses de mobilité sociale, de l'université, des jeunes qui étaient les premiers de première génération, hein, les premiers de leur famille à entrer à l'université dans les années 60, avaient basé leurs anticipations de valeur de leur diplôme avant la massification scolaire. Hein, alors, bon, l'image que je prends là aussi, souvent, même si je ne sais pas si est-ce qu'elle vaut, mais. Enfin, je ne sais pas si elle est fausse, mais on va dire dans les années 50, avec une licence en droit, vous pouviez devenir notaire. Massification universitaire, vous avez trop de licenciés en droit, donc inflation des diplômes, enfin, en tout cas dévaluation des diplômes. Et à la fin des années 60, avec une licence en droit, vous pouvez seulement être clerc de notaire. Bon. Et celui qui a une licence en droit, il espérait être notaire, et puis finalement, il est déçu. Bon. Et donc, frustration, il va retourner sa colère, sa déception contre l'institution qui n'a pas tenu ses promesses de mobilité sociale, c'est-à-dire l'université. Le problème, c'est qu'on peut être frustré et ne pas se révolter. C'est-à-dire que pourquoi mai 68, ça éclate en mai 68? Ce phénomène-là, il était déjà présent avant. Ça n'explique pas le passage Tedger, c'est un modèle psychologique frustration-agression. Donc c'est pas très raffiné. Donc c'est un peu rudimentaire pour l'idée du passage à la révolte. Mais frustration égale agression, égale révolte, non, pas forcément. Après, il y a un problème logique dans le chronologique, plutôt dans le modèle Boudon-Bourdieu, c'est que en mai 68, ce sont les étudiants qui se sont révoltés. C'est pas ceux qui venaient juste de quitter l'université. Et par ailleurs, et là, y a différents travaux et j'y ai contribué, les étudiants 68ards n'étaient pas forcément inquiets de leur avenir professionnel, de leur mobilité sociale. C'était pas dans une logique de rentabilité du diplôme qu'ils étaient à l'université. En tout cas, ceux qui se sont mobilisés le plus intensément pendant mai 68. Alors, mes frustrations relatives, ça reste, c'est très critiquable, ça a été très critiqué, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ça ressurgit de temps en temps, c'est-à-dire quand il y a eu les révolutions arabes, là, en 2011, on dit « Ah oui, mais regardez, en Tunisie, ils ont trop de diplômés qui sont au chômage. » Ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils ont trop de diplômés qui sont au chômage. Bon, pourquoi en 2011 Donc il nous manque une étape dans le modèle. Alors, je reviens à Olson. Donc lui, il présuppose une super rationalité, vu qu'il est utilitariste. On a des individus calculateurs qui vont choisir la ligne d'action la plus profitable. Ils vont calculer en pertes et profits de telle ou telle option d'action. Bon. Alors, le paradoxe de l'action collective vient du fait que... Olson s'intéresse à des actions collectives pour un bien collectif, c'est-à-dire un bien qui bénéficie à l'ensemble des membres d'un groupe. Si on augmente toutes les infirmières de 5%, c'est pas les infirmières de blondes de 40 ans, c'est ou celle-là et puis pas celle-là, c'est l'ensemble de la catégorie. Si vous êtes membre, vous appartenez au corps professionnel des infirmières, vous en bénéficiez. Bon. Donc ça, c'est un bien collectif qui ne peut pas être refusé à un membre du groupe, ce qui est aussi dans les présupposés de base de la démonstration d'Olson, c'est que les membres de ce groupe ont conscience, savent, que s'ils se mobilisent, s'ils participent à une action collective, ils sont en capacité d'obtenir ce bien collectif. Donc on n'est pas du tout dans le... Une nouvelle fois, on est dans la rationalité, on n'est pas dans des théories de la mauvaise, de la fausse conscience, de l'aliénation, théorie plus ou moins léniniste. Et le paradoxe, il réside que des gens qui savent que s'ils se mobilisent ensemble, ils vont obtenir un avantage pour tout le monde, la plupart du temps ne vont pas se mobiliser. Alors qu'ils savent qu'ils auraient intérêt à le faire, un intérêt collectif à le faire. Pourquoi ? Parce que, selon Olson, la mobilisation, ça représente un coût. L'exemple le plus parlant et, je dirais, le plus classique, c'est la grève. Si toute l'entreprise se met en grève pour demander une augmentation de salaire, le patron, au bout d'un moment, il faut qu'il vende il faut qu'il produise et qu'il vende sa production, il est obligé de céder. Sauf que, pendant qu'on fait grève, on n'est pas payé. Et donc, nous dit Olson, il y aura toujours des gens qui vont faire le calcul rationnel qui consiste à ne pas payer le coût de la mobilisation. C'est-à-dire à ne pas faire grève en se disant « je vais avoir le beurre et l'argent du beurre », c'est-à-dire « je vais garder ma paye puisque je vais continuer à travailler ». Par contre, les collègues, eux, vont faire grève, ils vont obtenir les concessions du patron et obtenir une augmentation de salaire, et comme c'est un bien collectif, même si je n'ai pas participé à la grève, je bénéficierai de l'augmentation de salaire. Alors, ça, c'est le calcul de celui que Olson appelle le passager clandestin, en version originale le free rider. Sauf que, évidemment, si tout le monde fait ce calcul-là, personne ne fait grève. Donc, Olson nous explique pourquoi il n'y a pas de mobilisation, pourquoi c'est difficile. Bon, alors, malgré tout, il y a des actions collectives qui existent, qui sont réalisables. Alors, il fait une première distinction, il parle des petits groupes, c'est-à-dire de, voilà, si là on est un petit groupe, s'il y en a un qui, une qui refuse de faire grève, ça va se voir, quoi. Bon, y a, si vous êtes une entreprise de 1000 salariés, où personne ne se connaît vraiment, c'est très anonyme, bon, ben, ça sera plus difficile à mettre en place. Bon, ça, c'est une première explication, mais ce n'est pas la plus importante. La solution à son paradoxe que propose Olson, c'est les incitations sélectives. C'est-à-dire un bénéfice ou un coût qui va venir compenser le coût de l'action collective. Si, voilà, c'est-à-dire si c'est encore plus coûteux de ne pas participer. Sur le plan individuel, ben vous allez participer parce que vous allez vouloir réduire les coûts. Ou peut-être que s'il y a un bénéfice, hein, l'incitation sélective, c'est un bénéfice ou un coût, mais qui est mesuré au niveau individuel. Et finalement, c'est plus profitable de participer et le bénéfice va compenser le coût de la mobilisation. Alors, je donne des exemples empiriques parce que sinon, c'est... Olson fait des équations dans le bouquin, mais bon. Le coût supplémentaire, ben, ce n'est pas forcément un coût économique. En plus, bon, c'est un économiste, donc voilà, il raisonne de manière très, très abstraite et économique. Mais si vous appliquez ça à des situations concrètes, voilà, quand je faisais ma thèse, notamment il y avait un chapitre qui était dédié à l'occupation de l'église Saint-Nizier par les prostituées de Lyon en 1975. Et donc j'avais rencontré des femmes qui avaient participé à cette action, et il y en a une qui m'a dit « Mais moi, je ne voulais pas y aller dans l'église, je ne voulais pas participer au mouvement. » Et puis il y a une telle et une telle qui sont venues avec un berger allemand qui m'ont dit « Si tu ne rentres pas dans l'église, on lâche le chien. Bon. » Elle a été dans l'église, c'est-à-dire c'était plus coûteux. Elle n'a pas travaillé, mais elle craignait plus de se faire mordre par un berger allemand. Voilà. Ouais, ça se tient. Hein. La logique du piquet de grève, c'est ça. Hein. La logique de la stigmatisation des jaunes, de ceux qui restent à l'écart de la mobilisation, on va dire, mais, si plus personne me parle dans l'atelier, si je me fais casser la gueule en voulant rejoindre mon poste, si je me fais insulter, etc., bon, c'est plus coûteux. Donc, effectivement, pendant la grève, je ne vais pas être payé, mais c'est un moindre mal. Donc ça, c'est la logique du moindre mal, je dirais. L'incitation sélective négative, c'est la logique du moindre mal. Finalement, ça sera coûteux de participer, mais ne pas participer, ça sera encore plus douloureux. Bon. L'incitation sélective positive, bah, c'est un bénéfice, c'est un avantage qu'on peut retirer de la mobilisation. Alors, bon, là aussi, c'est un exemple que je donne à mes étudiants parce que ça leur parle. Et Olson y invite, il parle d'incitation sélective érotique, et effectivement, on peut rejoindre le piquet de grève, et puis draguer, et puis peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un de, voilà, d'intéressant, et que ça va se terminer sur un plan pas du tout politique, mais de manière très agréable. Voilà. Ah, c'est un bénéfice qui n'est pas anticipé, forcément, qui vient, qui n'est pas de nature nécessairement politique ou qui n'est pas en lien nécessairement avec l'objet de la revendication. Par rapport à une question qui a été posée pendant la pause, donc Olson réfléchit de manière très abstraite, hein, même... alors, étant économiste, il a sans doute le présupposé d'incitation matérielle, hein, une nouvelle fois, c'est une formalisation par équation. Donc, si ça me coûte 2, mais que ça me rapporte 3, je gagne quand même 1. Enfin, c'est ce genre de calcul qu'il fait. Et donc, voilà, la question qui peut se poser, c'est entre type de rétribution ou en termes de type d'incitation. Hein. Donc, les exemples que j'ai donnés, voilà, le menacer avec un berger allemand, c'est une incitation sélective négative, mais... qui n'est pas forcément quantifiable. Hein. Alors, Olson lui-même ouvre la voie, hein, à aller au-delà d'une comptabilité Par exemple, une comptabilité monétaire du coût et des bénéfices de l'action collective lorsqu'il parle d'action sélective érotique. Évidemment, et c'est un des problèmes du modèle, il est très désincarné. Il laisse peu de place, il y a peu d'exemples. Ils sont des, comme souvent chez les économistes, c'est les exemples qui sont sollicités sur le moment, quoi, qui sont les exemples ad hoc pour illustrer une démonstration, mais ce sont plus des illustrations qu'une base empirique. Voilà. Alors, certains ont essayé de mettre un peu plus de chair sociologique, on va dire, autour de la réflexion, notamment en France, un politiste qui est Daniel Gaxi, donc qui a adapté, élargi Olson d'une certaine manière en parlant de rétribution de l'engagement, c'est-à-dire effectivement les gratifications de différentes natures qui peuvent inciter et soutenir l'engagement. Qui peuvent être notamment des gratifications matérielles. Alors, le premier article de Gaxi, qui doit dater de 77 ou 79 dans la Revue française de sciences politiques, est très nourri d'illustrations des mairies communistes, en fait. C'est-à-dire, Gaxi lui-même, à l'époque, est au PC, ou vient de le quitter. C'est l'idée de celui qui va adhérer au parti, en échange de son dévouement pour le parti, de son énergie militante pour le parti, espère éventuellement un logement social, un emploi à la municipalité, etc. Donc il y a des rétributions matérielles de l'engagement. Il y a des rétributions également, et ça Gaxi y fait référence, des gratifications symboliques en termes de, voilà, vous devenez le chef de votre section, vous êtes élu responsable de votre section, vous prenez des responsabilités, vous pouvez vous pousser un peu du col, vous êtes content que vos camarades et reconnu votre compétence, que la majorité des votes se soit portée pour vous, c'est une reconnaissance et ça fait toujours plaisir. Vous êtes aussi, alors peut-être on peut élargir à d'autres mouvements sociaux, c'est vous qui menez la grève dans votre entreprise, les médias viennent, c'est vous le porte-parole, le délégué, les médias viennent vous demander... vous interviewez pour savoir quelles sont les motivations de la grève, les revendications. Vous passez au journal télévisé, vous avez votre photo dans le journal. Ça fait plaisir. C'est une reconnaissance, là aussi. C'est gratification symbolique. Ça ne se mesure pas en argent, mais vous avez gagné de la considération, de la notoriété. Et ça fait toujours plaisir et ça peut être une motivation de l'engagement. Surtout que nous dit Gaxi, plus vous militez, plus vous vous engagez, plus vous allez gagner en reconnaissance et en gratification de cet ordre-là. Vous êtes militant anonyme d'abord, et puis vous vous êtes fait connaître en participant à une lutte sur votre quartier. Et cette lutte a été... vous avez été porte-parole de cette lutte sur votre quartier. C'est déjà une forme de reconnaissance. Vos voisins vous estiment parce que vous avez mené cette lutte. Mais cette lutte a été considérée comme exemplaire à l'échelle du département, ou à l'échelle du truc. Donc on vous invite à en parler, et puis on va vous confier éventuellement de nouvelles responsabilités. Et donc... la rétribution nourrit la rétribution, enfin on appelle de nouvelles. Je pense, c'est un exemple qui me vient en tête, avec Annie Colloval, dont on avait fait une étude sur les novices du syndicalisme, et j'avais interviewé un salarié d'une, on va dire, un supermarché de la culture, qui avait mené une lutte assez déterminée et qui avait obtenu un certain succès dans un supermarché de la culture de la région parisienne, Et puis, il a été interviewé dans la presse militante de gauche, d'extrême gauche, etc. Et puis, le syndicat, il était syndiqué à la CGT, mais ça aurait pu être un autre, hein, c'est pas... mais il lui a proposé de nouvelles responsabilités. Et puis, on lui a dit, mais tu veux pas prendre un demi-temps, un mi-temps permanent parce que, voilà, et lui était, au moment où je l'ai interviewé, était un petit peu, avait un peu le vertige parce que ça s'était passé très vite. Et on lui proposait, il y avait un parti d'extrême gauche qui lui proposait d'être son candidat aux prochaines législatives. Voilà. Bon, alors, lui, ça lui avait donné un peu le vertige. On voit qu'on peut s'engager, voilà, par accumulation de rétribution. Hein, et la notoriété, c'est une rétribution, et la notoriété appelle la produit un peu plus de notoriété. Voilà. Lui s'est posé la question, c'est-à-dire de la valeur de ses rétributions. C'est-à-dire que il voyait moins ses copains parce qu'il n'avait plus le temps. C'était aussi comment ça affectait sa vie privée, sa vie. Personnel et bon et puis il était nourri aussi de critiques anti-bureaucratiques. Il se dit mais moi je veux pas devenir un bureaucrate syndical et on me propose un poste de permanent mais voilà il avait le sentiment que ça allait trop vite mais bon dans ce cas-là vous avez des carrières qui peuvent voilà et puis il y a des enfin dans le monde syndical il y a aussi des postes à pourvoir hein, donc Ah, et autant les pourvoir avec des gens qui ont montré qu'ils étaient dynamiques, efficaces. Bon. Et puis, je dirais, il y a des d'autres, un autre type de gratification symbolique, c'est l'idée d'être fidèle à ses idées, d'avoir défendu ses convictions, d'avoir été intraitable, de ne pas avoir cédé sur ses principes, d'agir conformément à ses valeurs. Ce qu'on peut synthétiser dans la formule pouvoir se regarder dans la glace, avoir dit non, non, ça j'accepte pas. Je peux... Bon, quand je faisais les entretiens avec des militants, militantes de Réseau Éducation sans frontières, mais pour moi c'était insupportable de savoir qu'un petit camarade de mon fils, de mon enfant, va être expulsé dans un pays où on ne sait pas ce qu'il va devenir. Ça fait partie des gratifications symboliques. Ce qui fait que, pour revenir à quelque chose que j'avais évoqué, que j'avais un peu laissé en suspens, l'idée de militant par conscience proposée par McCarthy et Zald, qui présuppose un engagement désintéressé, c'est à la fois vrai et, d'un point de vue désenchanteur sociologique, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ouais, ces gratifications symboliques sont bien des bénéfices, même s'ils ne sont pas mesurables. Hein, ils ne sont pas quantifiables d'un point de vue monétaire, mais qui existent quand même et qui sont des ressorts de l'engagement, qui l'entretiennent aussi, hein, qui font qu'on va continuer à militer parce qu'on est content d'agir conformément à ses principes. Et puis aussi, il y a une dimension importante qui est le plaisir du militantisme. C'est-à-dire que, voilà, il y a du plaisir à aller, y compris pour s'engueuler, parce qu'il y a des divergences à l'intérieur de son organisation, des divergences idéologiques, stratégiques, mais voilà, c'est quand même plus sympa que de rester enfermé chez soi à regarder TF1. Voilà, je caricature, hein, mais il y a la sociabilité de. Bon, ça fait partie de ces gratifications qui entraînent le militantisme, hein, une fois qu'on a découvert, alors là je vais faire le lien avec quelque chose qui est un petit peu annexe, mais la perspective des carrières militantes, développée notamment par Filleul, c'est un petit peu ça. Hein. Alors il reprend l'idée de carrière notamment à Howard Becker qui parle des carrières de toxicomane. Bon. Et on découvre le produit, on apprend à apprécier ses effets. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prévenu, on vous met de la drogue dans votre nourriture, vous n'avez peut-être pas trouvé ça très agréable, mais vous apprenez à, et puis vous apprenez à le préparer, à vous fournir. Et vous pouvez éventuellement passer d'un type de substance à un autre. Bon, ça, c'est l'idée de carrière chez Howard Becker. Ben, chez Filleul, vous découvrez le militantisme peut-être des fois dans des conditions un petit peu imposées. mais vous finissez par apprécier, par y trouver plaisir, vous allez continuer à militer, vous allez vous spécialiser dans Réseau Éducation Sans Frontières, notamment, et les gens qui faisaient un apprentissage, mais totalement improvisé sur le tas, du droit des étrangers. Ils apprenaient le droit. Comment fonctionnait la justice française, parce qu'ils accompagnaient des familles au tribunal administratif. Ils devenaient incollables. Alors, c'était vraiment des novices totales. Mais il y a une gratification. Alors, dans ma famille, ils sont complètement scotchés parce que maintenant, je parle de droit, j'utilise des termes juridiques. Et là, il y a un plaisir d'apprendre. Bon, ça fait partie des... On peut ranger ça dans les gratifications. Hein. Alors, évidemment, ça peut... c'est un vocabulaire désenchanteur. C'est-à-dire, c'est gratification, c'est rétribution, même si ce n'est pas incitation sélective, c'est une connotation intéressée. Mais cet intérêt, c'est un intérêt sociologisé. Hein. C'est le fait de trouver un intérêt à cette activité. Oui.
Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, ça pourrait pas l'utiliser pour...
Tout à fait. Tout à fait. La sociabilité des ronds-points, enfin, on fait des barbecues, on construit des cabanes, on est très fiers de... Vous avez vu la belle cabane que j'ai construite sur le rond-point. Voilà, enfin, c'est... Alors, en parler en termes d'intérêt, hein, comme fait Olson, d'une certaine manière, on voit qu'on loupe tout un univers. Si on parle simplement en termes désencarnés, en termes de coûts-bénéfices. Ce à quoi invite Gaxi, c'est à sociologiser ça, dire bah, ça a de l'intérêt pour les gens, c'est intéressant, c'est pas indifférent, c'est pas une contrainte, c'est pas une corvée. Alors, c'est justement au moment où il n'y a plus de gratification, ça devient une corvée justement, où on se force pour aller aux réunions, pour aller aux manifs, que là, on voit du désengagement. Hein, là aussi, c'est ce qu'avait travaillé Filleul à partir de la notion de carrière militante. C'est la baisse de la valeur des rétributions fait que vous allez vous désengager parce que vous emmerdez aux réunions, ou c'est pas sympa, puis vous avez mieux à faire. Voilà. Alors... Ça rejoint une autre critique qui a été adressée à Olson par Hirschman, justement, qui faisait remarquer que Olson, c'est le coût d'un côté et le bénéfice de l'autre. Et Hirschman nous dit, mais en fait, les deux, ça peut très bien se confondre. Le coût et le bénéfice. Vous avez été à la manif, les flics ont chargé, vous avez pris du gaz lacrymogène. Alors ça, c'est un coup, mais qu'est-ce qu'on leur a mis en face? Ah, on s'est bien battu, hein. Et puis, c'est eux, à un moment, c'est eux qui avaient peur. Et puis, on est fiers de soi. La lutte a peut-être pas été... la grève a peut-être pas... On n'a peut-être pas tout obtenu, n'empêche qu'on a montré au patron qui sait qui... voilà, il y a le coût et un bénéfice aussi. Hein. On prend l'exemple du pèlerinage. C'est-à-dire que... Si vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle en avion, le pèlerinage, il ne marche pas. Il faut quand même que vous ayez pris quelques ampoules au pied, que vous ayez pris de la flotte sur le chemin, que vous ayez marché. Bon, le bénéfice d'avoir fait le pèlerinage, c'est que ça a été dur. Hein, vous avez quand même... voilà. Donc les deux se confondent. Hein, et cette opposition sur laquelle est fondé le raisonnement d'Olson... à l'examen, et peut-être pas si clair, pas si net. Hirschman, c'est dans Bonheur privé, action publique. Alors, parmi les autres critiques qui ont pu être adressées à Olson, l'autre reproche, alors qui est valable, on va dire, pour les primo-militants, c'est que les incitations sélectives ne sont pas forcément anticipées. Pour les incitations sélectives érotiques, vous ne savez pas que vous allez avoir un coup de foudre en allant sur la barricade, que vous allez faire la rencontre de votre vie. Il y a un problème aussi logique du raisonnement. C'est-à-dire que les incitations... Alors, si vous êtes un vieux routier ou une vieille routière de la protestation collective, vous savez un peu plus ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais pour un primo militant, quelqu'un qui ne connaît pas cet univers, les incitations sélectives, si on veut garder ce terme-là, elles sont découvertes dans l'action. Mais elles ne peuvent pas être le moteur, parce qu'on ne les connaît pas encore. Bon. Voilà, ça c'était sur les incitations, gratifications, rétributions. Alors oui, peut-être, parce que je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout dire, vous pouvez connecter ça à la question du recrutement social, des mouvements sociaux, la distribution sociale. C'est-à-dire que telle chose, telle incitation sélective, le fait de l'apprécier, de la trouver intéressante, ça va dépendre aussi de qui vous êtes socialement. Si vous arrivez dans une organisation très conflictuelle, où il y a des luttes de tendance, les réunions, c'est des joutes verbales. Voilà. Si vous avez du goût à ça, si vous avez des dispositions à la controverse publique, au débat, vous allez y trouver plaisir. Si vous préférez les situations pacifiées, les échanges courtois et la bonne volonté dans la construction des consensus, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Cet exemple que je viens de prendre, c'est très genré. C'est-à-dire que c'est plutôt les mecs qui vont apprécier les joutes verbales et les femmes qui vont, tendanciellement. Je suis prudent. Mais voilà. Mais ça veut dire aussi, lorsqu'on fait des enquêtes sur des mouvements sociaux, c'est les gens qui restent pas longtemps qui disent j'ai pas trouvé ma place. Le truc, non, c'était hyper conflictuel. Moi, je ne supporte pas les gens qui s'engueulent, donc je suis pas revenu, quoi. Voilà. Alors, je prends un exemple peut-être plus parlant de ça. C'était l'étude qu'avaient fait Filleul et Broca sur ACT UP, au tout début d'ACT UP. Vous connaissez peut-être l'anecdote, mais c'est une enquête qu'ils ont faite. Ils ont fait une enquête quantitative à partir du fichier des adhérents et des adhérentes. Au tout début d'ACT UP, lorsque l'association s'est faite connaître par le préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde. Bon. Donc ils ont des données de statistiques sur la composition du fichier des adhérents. Et puis ils vont aux réunions hebdomadaires d'ACT UP. Et ce qu'ils voient, c'est que ça ne correspond pas. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que sur les statistiques, c'est un groupe mixte. Dans les réunions, c'est un groupe d'homosexuels masculins. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les femmes sont parties. Elles sont venues à une ou deux réunions, elles n'ont pas supporté l'ambiance. C'est que les codes de l'homosexualité masculine, c'est beaucoup de drague en marge de... c'est de la drague où elles ne sont pas valorisées. Elles ne trouvent pas leur place, quoi. Donc il y a eu un recrutement genré de l'association, très clairement, qui n'était pas intentionnel, mais les logiques même ont fait que... les femmes hétérosexuelles ne se sentaient pas à leur place dans cette organisation-là. Et ils ne trouvaient pas de plaisir, c'était désagréable. Alors que les homosexuels masculins trouvaient ça, au contraire, très, très fun. Et je dirais là, si, pour illustrer ça, vous avez le film « 120 battements par minute », vous voyez justement cette drague, cette sociabilité typiquement gay qui se joue dans les réunions. Et pour des gens qui sont extérieurs, on ne se sent pas à sa place et on ne revient pas. Et ce n'était pas l'intention d'ACT UP d'être une dominante homosexuelle masculine. Donc on peut connecter cette question des rétributions. Selon quels critères d'évaluation ces rétributions vont être appréciées, au sens de leur donner un prix, de leur donner une valeur aussi. Mais aussi appréciées au sens du plaisir qu'on y trouve.